France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans un tourbillon d'énergie pure. Formé en 2010, le collectif Astéréotypie balance une musique post-punk survitaminée à base de rythmes effrénés, de riffs toniques, de mélodies entêtantes et de paroles planantes. En 2012, ils sortent leur premier enregistrement Astéréotypie, puis leur album L'énergie positive des dieux en 2018. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, qu'on adore aussi pour son titre, sort en 2022. Et l'année dernière, ils ont lancé l'album Patami. Sur scène, ils déploient une énergie folle. Ils ont électrisé Sonic Protest, Rock en scène, les transmusicales ou des salles comme le Bataclan. Ils étaient tout récemment aux Vieilles Charrues et ils entament cet été une tournée dans toute la France qui les mènera à la Cigale à Paris. Le 13 novembre, deux de ses membres font une pause dans notre studio. Le chanteur Stanislas Carmon, que l'on peut également voir au cinéma, il a joué notamment dans le film d'Artus Un petit truc en plus, ou à la télévision puisqu'il est l'un des journalistes de l'émission Les rencontres du Papotin sur France 2. Et le batteur Éric Dubessé, alias Stéphanie, également membre du groupe Moriarty. Je serai en deuxième partie d'émission avec le chanteur et compositeur Flavien Berger, qui nous parlera de son nouvel album Plouf, et on plonge dans le grand bain de vitamines. Se salue sur Cheese Bad Girl, un extrait du tout dernier album d'Astéréotypie, Patami. Bonjour et bienvenue Stanislas Carmon.
Bonjour madame.
Et bonjour et bienvenue à vous Éric Dubessé.
Bonjour madame.
Comment est venue l'idée de ce nom Astéréotypie et quelle est sa signification, Éric Dubessé?
Stan, tu n'aurais pas une réponse?
Stanislas Carmon.
Hein? Sur Astéréotypie, tu te souviens ou pas?
Par rapport à quoi?
Eh ben, par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est-à-dire d'où vient le nom Astéréotypie?
En fait, Astéréotypie, ça vient d'une phrase que prononçait Kevin, parce qu'il comparait ces stéréotypies avec des astéroïdes. Et il appelait ça des astéréotypies, et on a trouvé que ce serait un nom super pour un groupe de musique. Enfin, moi, j'étais pas encore là, mais à l'époque, ils ont trouvé que ce serait super. D'où le nom du groupe.
Voilà. D'où le nom du groupe. Alors, on va revenir sur la création d'Astéréotypie. Il y a notamment Christophe L'Huillier, qui est musicien et qui anime aussi des ateliers de la poésie à l'Institut médico-éducatif de Bourg-la-Reine. Éric Dubessé, comment ça s'est passé, la fondation du collectif? Et vous, comment est-ce que vous avez rejoint l'aventure?
Alors, j'ai rejoint l'aventure parce que, donc, ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je jouais avec Moriarty, avec aussi Arthur qui joue la basse dans le groupe maintenant. Et on a reçu un mail un jour chez notre tourneur qui venait de ce centre éducatif, cet immeuble à Bourg-la-Reine. Et comme on était connus pour pour être curieux et faire des expériences un peu qui sortaient un peu du truc classique, concert, voilà, enfin des concerts classiques. On nous a envoyé un mail, c'était la directrice de Christophe, je crois, pour faire une collaboration, mais c'était juste une collaboration, une rencontre, voilà, musicale avec les jeunes dont s'occupait Christophe Lullier à l'époque. Donc il y avait Justin, il y avait Johan aussi, il y avait Aurélien, il y en avait d'autres, il y avait Kevin, mais dont Stan a parlé juste avant. Et moi, avec un groupe précédent, j'étais allé dans ce centre, mais il y a 10 ans avant. Et j'avais fait un truc aussi, une collaboration, juste un truc de fin d'année avec des musiciens, des jeunes musiciens autistes là-bas. Et j'ai dit aux autres de m'inviter, il faut absolument aller là-bas, c'est intéressant et tout ça. Et donc on est tombé sur Christophe, il y avait Arthur, moi et Charles, un autre membre de Moriarty. Et on est tombé, on a rencontré Christophe. Et puis à l'époque, je crois que je sais pas plus si t'étais là, Stan, cet après-midi-là. Il me semble que Stan était là, Johan était là, Aurélien aussi, voilà. Et donc on est arrivé dans le salon de cette maison, c'est une vieille maison 19e, enfin le salon où ils font des ateliers.
Et donc oui, j'étais là.
Bah oui, t'étais là, hein. Et Christophe a sorti sa guitare. Il a branché sa guitare électrique tout seul et là ben voilà, il y avait Stan, il y avait Johan et qui ont commencé à déclamer leurs textes. Christophe nous a expliqué ce qu'il faisait, un atelier d'écriture pour les encourager à écrire ben leur univers et puis aussi les encourager à s'exprimer devant des gens, enfin devant un public. Bon, à l'époque c'était plus public dans le réseau des IME, et voilà, et ben moi ça a été un grand choc de poésie, d'émotion, je sais pas comment je peux qualifier leur texte. Il y a du surréalisme, il y a de l'absurde, mais dans le bon sens du terme, je dirais l'absurde dans le sens un peu comme on dit, au sens anglais du terme, l'absurde, la poésie, je sais pas, enfin la poésie, le nonsense, voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Je retrouvais ça là-dedans, et ça a été un choc musical aussi, parce que moi, personnellement, je viens pas du tout du milieu rock, indé, post-punk, ultra pointu dont vient Christophe. Et pour moi, ces compos, elles étaient, j'avais jamais rien entendu de pareil. Un mélange de punk, oui, de post-punk, de post-rock, mais aussi il y a des envolées lyriques qui correspondent, parce qu'il a. Ce qu'avec Christophe, c'est qu'il a beaucoup. Il y a des mouvements dans leurs textes, donc ils composent beaucoup suivant les mouvements de leurs textes. Voilà. Et Arthur et moi, on a. Enfin, franchement, bon, je le dis, pris une baffe. En tout cas, c'était un grand moment d'émotion. Et après, on est resté en contact avec Christophe et on lui a proposé entre les tournées de Moriarty, de monter le groupe. De monter vraiment, parce qu'il avait déjà fait lui un petit enregistrement, un petit CD dont vous avez parlé, Stéréotypie. Donc il y avait déjà une base, lui il avait fait ça avec un copain lui, ils avaient un peu joué tous les instruments. Donc il y avait déjà une base d'arrangement. Et à ce moment-là, Christophe a appelé un ami à lui, Benoît Guivarche, au clavier, au synthé. Il y avait aussi Claire, une autre et une collègue de Christophe à l'époque qui jouait de l'accordéon. C'était beaucoup plus acoustique au départ, et donc on a monté le groupe et voilà, et on a commencé à réarranger et voilà.
Stanislas Carmon, comment ça s'est passé pour vous les débuts de la Stéréotypie, et comment est-ce que vous entrez dans cette carrière musicale?
Quand la porte s'ouvre, c'est un super moment d'émotion, parce que c'est chaque opportunité, en fait, c'est comme une porte qui s'ouvre. Et quand on franchit la porte, du coup, on arrive dans un monde extraordinaire, un monde. On arrive vers une super opportunité. Et pour moi, c'est. À Stéréotypie, c'est comme si on me tendait la main et on me disait. Tu peux y arriver, voilà, et puis ça a été un grand moment d'émotion. Et la première fois que j'ai joué, je m'en souviens très bien, avec le groupe, c'était quand j'étais à la mairie de Paris. J'avais beaucoup le trinc, parce que c'était la toute première fois. Et c'était un moment d'émotion intense, parce que... après, grâce au trinc, j'étais fier de moi. Et c'était super, c'était un grand moment d'émotion. Et je dois beaucoup à Stéréotypie.
Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Comment est-ce que vous passez? Alors au début c'était un atelier de poésie, hein, et puis c'est mis en musique, et puis ça devient des albums, ça devient des concerts que vous jouez sur scène. Comment ça se passe depuis le moment où un texte naît dans votre imagination jusqu'au moment où il se déploie jusqu'à nos oreilles? Quelles sont les étapes de travail, Stanislas Carmont?
En fait, c'est que on fait vraiment travailler l'imagination, et même quand on n'a pas d'idée, ce qui est bien, c'est qu'on arrive toujours à chercher des idées très très profondes, parce que finalement le manque d'idées par rapport au texte qu'on veut écrire n'est pas un manque à 100%. Parce que on peut toujours chercher de manière très profonde les textes qu'on a envie d'écrire. À un moment donné, même si on n'a pas d'idée, l'imagination nous donne des idées. Notre propre imagination, d'un seul coup, nous donne des idées. Et on arrive à garder un équilibre pour pouvoir écrire des textes, pour pouvoir... Ce qui est bien, c'est que la stéréotypie, c'est tout un travail sur l'imagination, sur l'imaginaire, et aussi sur la réalité. Et c'est un mélange des deux, et c'est super, et je pense que les deux font qu'il y a un bon équilibre. Il y a beaucoup de fantaisie, un peu de réalité, et les deux se mélangent très bien.
Éric Dubessé, comment ça se passe, la mise en musique de cette matière imaginative, créative, surprenante et, comme vous disiez tout à l'heure, absurde? Non,
c'était le nonsense. Enfin bon, c'est, moi ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça que ça m'a touché, mais c'est au-delà de ça. Enfin, c'est pas... musicalement, c'est beaucoup... Christophe amène à beaucoup de à des idées. Alors, des fois, il y a des ébauches de textes qui sont là, qui peuvent être développées. Et après, lui, il a des riffs de guitare ou des mélodies qu'il a. Il en a plein comme ça. Et puis, suivant les textes qui sont soit en ébauche, soit terminés. Il nous fait écouter. Benoît aussi amène aussi beaucoup de débauches musicales. Arthur aussi. Moi, je m'adapte plus dans l'arrangement. Je suis plus à l'écoute de ce qu'ils veulent, parce que vu que c'est pas mon style musical au départ, je fais confiance à leur idée. Et donc voilà. Donc soit Benoît, soit Christophe ont des ébauches de musique et là, on se dit, tiens, tel son, tel riff, telle programmation de synthé, telle ligne de basse, tel genre correspond à tel texte, plus à Claire, plus à Stanislas, plus à Johan, plus à Aurélien, voilà. Et donc après, quand vraiment les, on définit chaque texte, chaque musique, après on arrange en plus. Enfin moi j'apporte la batterie et là on se lance dans les arrangements et le produit fini, comme on dit.
Et c'est sur scène que la magie opère, et l'une des grandes prêtresses de cette énergie-là, c'est Rebecca Warrior, que vous connaissez, avec laquelle vous avez collaboré, je crois. On va écouter Rebecca Warrior.
J'ai toujours considéré que la scène était vraiment comme une sorte de grande messe. Une grande cérémonie de communion avec les fidèles. Donc je suis assez, enfin c'est quelque chose d'assez sacré pour moi. J'y suis très attentive et j'adore monter sur scène, mais parce que il y a ce partage, quoi. Donc c'est le moment où en fait on peut pleurer tous ensemble, on peut aussi redevenir un peu animal, danser, refaire sortir des instincts. et qui me sont très chères, quoi. Parce que la musique véhicule ça aussi, elle véhicule vraiment... Il y a une sorte de foi, quoi, dans la musique. C'est devenu nécessaire, c'est devenu une drogue maintenant.
Et 20, et 20 euros, et 200 euros, c'est la grand-mère de 20 euros. Elle est très gentille également. Un jour, 20 euros, c'est une jolie fille, fait un très beau cadeau à son grand-père. J'ai demandé à la mère de 20 euros si je peux me marier avec sa fille. Elle m'a dit oui, et c'est le plus beau jour de ma vie.
Et c'était Rebecca Warrior, donc, qui s'exprimait sur la scène. Et puis, on a enchaîné sur vous, Stanislas Carmon, qui chantait 20 euros. Est-ce que vous partagez le sentiment de Rebecca Warrior sur l'exercice de la scène, la pratique du rapport avec le public quand on joue de la musique? C'est presque une forme de transe, en fait. C'est presque une cérémonie un peu religieuse, Stanislas Carmon. Comment vous vous sentez sur scène?
Ah, bah, je sens l'énergie monter. Je sens l'énergie monter. J'arrive à me transporter, à me laisser guider par l'énergie. Et le public, à leur manière, finalement, me guide, m'aide à me guider dans cette énergie. Et ce qui est bien, c'est que, comme je le dis souvent, quand on s'exprime devant le public, on peut raconter tous nos soucis, tout ce qui va pas. Et c'est comme un grand cabinet médical, les festivals, les salles de concert. Et le public nous écoute, analyse ce qui va pas. Ils sont là pour nous soutenir, pour voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se confier à eux. C'est voilà, c'est super parce que il y a vraiment un échange, une proximité avec le public, et ils nous le rendent bien. Et à la fin, ils nous remercient, ils nous disent bravo, et ça fait toujours chaud au cœur. C'est toujours, ça fait toujours quelque chose parce que. Ça prouve que on leur a donné du plaisir au public. Donc, d'entendre bravo, merci pour le concert, c'est super, quoi. C'est bien.
Éric Dubessé, vous ressentez aussi ça sur scène avec Astéréotypie? Comment ça se passe pour vous?
Déjà, je trouve que Stan en a parlé d'une manière vraiment très belle. Mmh. Je vois pas trop ce que je peux ajouter. Moi, ce qui est merveilleux avec eux, c'est que chaque concert est différent. Et enfin, je parle un peu au nom des autres musiciens qui jouent quand on joue ensemble, c'est il y a toujours une surprise, il y a toujours un truc qui aucun concert ne ressemble à un autre. Voilà. Donc c'est très très émouvant. Moi je suis très très ému à chaque fois, je l'avoue. Stan est toujours incroyable sur scène, il est habité. Même Stan dans les répétitions la veille, dès qu'il prend le micro dans les répétitions, des fois on est obligé de lui dire mais attends Stan, va pas si fort, t'es pas encore sur scène. Il est en répétition comme aussi avec autant d'énergie et d'investissement que quand il est sur scène. Et tous les autres. Et il y a toujours quelque chose qui se passe, quelque chose qui est différent, je sais pas, Claire par exemple, ces derniers temps lisait de la poésie médiévale avant chacune de ses interventions. Johan a fait toutes des parties où il fait à chaque fois qu'on est dans une ville, c'était un faux Interville, voilà, il relançait Interville, oui, on était à Toulouse, c'était Toulouse contre Montauban, enfin bon, des fois il transforme des textes, il improvise sur un texte qui s'appelle Le Septième Art, qui est un texte sur les films d'action qu'il adore. Dernièrement, il a improvisé sur plein d'autres choses, des jeux télévisés ou alors il parlait de la région, alors ici dans le coin, il y a ça, parce qu'il lit beaucoup de choses sur la région où on va, ou sur les transports, sur les bus du coin ou sur les voilà.
Et il se déplace aussi dans la salle.
Johan, des fois, il aime beaucoup sur un texte qui s'appelle La Soufflante. Il aime disparaître et que le public n'écoute que le texte. Donc il disparaît dans les loges, il disparaît derrière la scène, il se balade. Des fois, dès qu'il peut aller dans le public, il y va. Voilà.
Stanislas Carmon, est-ce que vous avez toujours autant le trac que cette première fois à la mairie de Paris avant de monter sur scène?
Oui, j'ai Moins, forcément, parce que j'ai l'habitude, mais j'ai toujours le trac. Et ce qui est bien, c'est que le trac donne de l'énergie, permet de réussir. Parce qu'en ce qui me concerne, après ça dépend des gens, mais en ce qui me concerne, pour moi, le trac est un moteur pour pouvoir réussir. C'est ce qui me permet de bien réussir un concert. Le trac, c'est un peu une montée d'adrénaline pour pouvoir réussir. C'est un peu aussi l'énergie qui se forme, un peu le trac, en quelque sorte. C'est un peu l'énergie qui naît. Et une fois que cette énergie est présente, eh ben je fais un super concert sur scène et je donne tout, quoi.
Et c'est là que vous donnez aussi vos émotions, vous exprimez, vous le disiez tout à l'heure, dans un échange, dans un partage avec le public. Il y a aussi parfois de la colère. Stanislas Carmon, on vous écoute.
Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, 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 c'est ça qui me met en colère. L'autre fois on m'a crié dessus parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi. Je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis, les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise, il faut que tu dormes la nuit. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus...
Ça fait du bien d'exprimer cette colère, Stanislas Carmon.
Ah oui, oui, ça fait beaucoup de bien parce que on enlève tout ce qui nous énerve et... Surtout si jamais, juste avant, je suis pas bien, je me sens nerveux, bah grâce au fait d'exprimer ça, de tout donner, bah après ça va mieux, parce que toute l'énergie est partie, tout le sentiment de nervosité est parti, et puis après, je me sens mieux, quoi. C'est un texte qui pour moi... enlève tout mon mal-être, tout ça, toute ma rage, tout ce qui m'énerve et tout. Et après, je me sens mieux et je me dis, c'est un texte pour moi, c'est un morceau qui est libérateur pour pouvoir me libérer de tout ce qui me rend mal et tout. Voilà, s'il y a des gens qui se moquent de moi, ben je me sens mieux après, une fois que j'ai fait le texte, parce que je pense plus à ces gens qui se sont moqués de moi, des gens qui sont pas sympas, quoi.
Et cette musique vous permet aussi de dire qui vous êtes.
C'est ça, c'est ça. C'est un peu mon identité, même beaucoup mon identité.
Éric Dubessé, qu'est-ce que vous ressentez quand vous les entendez chanter? Tout à l'heure, vous avez parlé d'une grande émotion, ça vous apprend aussi des choses sur vous?
Ce que je ressens, déjà, ce que je ressens, et quand je vois Stan dire ce texte, ça fait 10 ans qu'il le dit, qu'il le chante, et Johan, il le dit toujours comme si c'était la première fois qu'il le chantait sur scène, comme si c'était son premier concert. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et je trouve ça, moi, ça m'apprend ce qui m'apprend quand je les vois, plein de choses quand je les vois, c'est qu'il n'y a pas de, c'est pas formaté, ils sont là tels qu'ils sont chaque soir. C'est un peu comme si c'était la première fois. Des fois il y a des oublis, des fois il y a des erreurs. Chez nous aussi. En fait, ce qui me fait énormément de bien dans ce groupe, et je pense que ça touche aussi pas mal le public, c'est qu'il y a un droit à l'imperfection. Voilà, c'est que c'est pas parfait, c'est pas ultra carré tout le temps. On rigole, des fois on se plante, des fois on rattrape des trucs parce que des fois ça décale un peu la structure, les textes ils partent pas exactement au moment où c'est. Et nous on rattrape. Et donc c'est en même temps une grande émotion et puis surtout être très à l'écoute de ce qu'ils font entre nous musiciens pour et puis voilà, et ben si il arrive un accident, ben on en rigole, voilà. Il y a des fois des petits problèmes techniques, c'est pas grave. C'est par rapport à toute une partie de la musique qui est très très carrée, n'importe laquelle, hein, je parle pas de goûts musicaux, hein, mais très mis en place, les spectacles sont ultra minutés. Nous, ben c'est ça le côté punk qu'on a en fait, c'est que c'est pas toujours parfait, mais il y a mais ils sont tellement merveilleux et tellement à fond sur scène que moi à chaque fois c'est une leçon pour moi. Franchement, c'est une leçon de vie de gens sur scène qui sont entiers et il y a voilà, ça ne triche pas, c'est comme ça.
Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la tournée qui s'annonce? Là, il y a 6 dates qui vous attendent jusqu'à la Cigale à Paris le 13 novembre. Est-ce que vous êtes plein d'énergie, Stanislas Carmont?
Ah oui, je suis chaud, surtout pour la Cigale. Faut garder toute l'énergie pour la Cigale et j'attends la Cigale avec impatience et ça va être une super date, la Cigale, vraiment.
Vous êtes prêt à sauter sur scène. Je suis très touchée aussi de voir les images dans les documentaires sur vous backstage. Il y a beaucoup d'affection, des câlins, des gestes très tendres entre vous. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, m'a bouleversée quand j'ai vu les images, cette énergie positive qui circule. J'ai très envie d'être à la Cigale le 13 novembre. Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain album?
Oui,
Ah bon?
Non, pardon. Bon, on a déjà commencé à écrire des nouvelles chansons. Et petit à petit, il y a les nouveaux morceaux qui naissent. Voilà, pour l'instant, on travaille pas sur un nouvel album parce que les textes sont déjà écrits, mais.
Bonjour.
Je pense que pour nous renouveler, je pense qu'à un moment donné, oui, je pense qu'on va écrire un autre album, parce que c'est important.
Et on est impatients de l'écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stanislas Carmont, Éric Dubessé.
Merci.
Je rappelle qu'on peut voir le groupe en tournée à Dijon le 29 août, Reims le 10 octobre, puis Orléans, Nevers, Nantes et enfin La Cigale à Paris le 13 novembre. Et on écoute tous les albums d'Astéréotypie. En attendant, on se retrouve en seconde partie d'émission avec le chanteur et compositeur Flavien Berger.
France Culture, les midis de culture, Élise Lépine.
Bienvenue dans cette deuxième partie des midis de culture et je suis à distance en compagnie de Flavien Berger, auteur, chanteur, compositeur qui 10 ans après l'ambitieux album Léviathan revient avec Plouf dans lequel il revisite ce tout premier album avec les 5 musiciens de La Brume, une musique électro et psychédélique. Bonjour Flavien Berger.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer votre nouvel album Plouf et on plonge.
Au creux des reins, le bleu sous-marin, j'attends la faille, le bleu sous-marin. Thank you.
C'était le Malchin bleu sous-marin, extrait de l'album Plouf, Flavien Berger. J'aime beaucoup ce titre, Plouf. Qu'est-ce que ce titre signifie pour vous, cette plongée dans la musique?
C'est Plouf, c'est l'onomatopée du plongeon. Ça reprend l'idée de l'album original qui était la parabole de la plongée sous-marine, de l'exploration sous-marine comme exploration de la musique. Et il y a 10 ans, j'avais choisi Léviathan comme titre un peu grandiloquent, comme le début d'une épopée. Et 10 ans plus tard, j'ai décidé d'aller à Los et d'utiliser le son en lui-même comme titre, puisque on a repris ce disque avec un nouveau cerveau en fait avec 6 nouveaux cerveaux quoi.
Voilà, vous avez fait vos débuts en 2015, donc avec Léviathan, puis vous sortez Contre-temps en 2018 et Dans son temps en 2023. Il y a le mot temps dans chaque titre. Quel rapport est-ce que vous entretenez, Flavien Berger, avec le temps qui passe?
Un rapport de mystère, quoi. C'est-à-dire que c'est la substance de la musique, le temps. La musique, c'est quelque chose qui se déroule, quoi, à l'horizontale, de l'architecture dans le temps, disait Ryushi Sakamoto. Donc je pense que en fait ça a une forme de point d'interrogation, quoi. Je saurais jamais vraiment quel est mon rapport au temps puisque lui-même change, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même une enquête, quoi, en jeu avec cette pratique de la musique et l'exploration du temps, quoi.
Vous enquêtez aussi sur vous-même, en fait, Flavien Berger, en revisitant ces morceaux.
Oui, c'est vrai. Il y a cette idée de qu'est-ce que je fais avec cette grille d'accords, qu'est-ce que je fais avec ce texte, 10 ans plus tard, avec mon éducation, ma vie qui a changé, mes goûts aussi. Alors, c'est pas pour renier le disque premier, mais c'est plus pour refaire un état des lieux et puis surtout aussi le partager, puisque vous l'avez dit, je suis pas tout seul, en fait. C'est quasiment pas moi qui ai fait ce disque qu'on écoute là, Plouf. C'est plus les musiciens et musiciennes que j'ai invités.
Et vous l'avez expliqué, hein, vous réinterprétez avec Plouf les titres de Léviathan, donc votre premier album. On va écouter un mix entre Gravité, version de 2015, et Loin de vous, la version de 2025.
Oh chérie, tu sais, je n'attendais que toi. Dans la nuit, sous la lune, je suis sous, tu m'allumes et j'aime. L'amour inverse la gravité. Oh, tu sais que l'on va s'embrasser sous la lune dans la nuit, mais nous deux, c'est un peu compliqué. Oh, chérie, je suis fou de vous et je qu'à toi, je t'attendrai ici. Oh chérie, les yeux bleus, le ciel est à tes pieds et je suis à genoux.
Qu'est-ce qui a changé pour vous en une décennie, Flavien Berger, dans votre pratique, dans votre vision de la musique? Moi, le sentiment que j'ai en écoutant ces deux morceaux, c'est peut-être plus de légèreté dans 10 ans plus tard. Hein. Peut-être aussi plus sûr de soi.
Ah, peut-être, c'est vrai que je suis pas la bonne personne pour faire le constat. Tout ce que je sais, c'est que cet album me sert un petit peu, voilà, d'exemple. Et ce qui s'est passé, bah, en 10 ans, c'est que ces morceaux, je les ai joués sur scène, je les ai réinterprétés, je me les suis presque appropriés, puisque lorsqu'on enregistre un morceau, après, il est gravé dans la cire comme ça, et puis il est figé. Et pourtant, on le défend sur scène, on le défend devant des gens, et en fait, c'est comme si, bah, plus c'est sa naissance en fait, le fait qu'il soit sur un disque, le morceau, puisqu'après il va vivre de plein de manières, et puis aussi d'autres gens vont le reprendre. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que la manière dont j'avais enregistré certaines chansons avait été un petit peu enregistrée comme ça, de manière mathématique et de manière naïve aussi. Et c'est vrai que les jouer en live, ça m'a permis de les faire fondre d'une manière plus fluide, avec ma voix, avec ma respiration, avec les intonations et puis les interprétations. Donc je dirais qu'en 10 ans, en tout cas dans le cadre de Léviathan, ce qui s'est passé, c'est que certains morceaux, je les chante mieux que quand je les ai enregistrés pour la première fois, quoi.
Vous avez grandi avec le hip-hop, vous citez notamment le groupe américain Outkast, et le hip-hop influence votre musique qui repose sur des boucles. On parlait tout à l'heure de votre rapport au temps, mais il y a aussi un rapport à la répétition, à la relecture. Oui. Comment est-ce que vous composez vos chansons, justement, avec ces boucles-là ?
Bah, il y a plein d'entrées pour une chanson. Je sais pas trop. Ce que je peux dire, c'est que un de mes outils, c'est le temps. Encore une fois, c'est-à-dire que parfois je fais des bribes, des petites variations, des versions de choses que je laisse reposer, je les laisse en jachère, et puis des années plus tard, je les retrouve et c'est comme si elles m'apparaissaient. C'est comme si ce qui m'intéressait tout à coup était beaucoup plus clair. Ça m'apparaissait plus clairement. Donc ça, c'est une des manières. Après, bah, je compose des chansons, je compose aussi des morceaux de musique, parfois sans paroles aussi. Donc, il y a plein de manières d'entrer dans la création. Je dirais qu'en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des thématiques. On l'aura compris, le temps, la trilogie sur le temps, la trilogie de la pop, et les investir un petit peu comme un travail d'enquête ou un travail de dissertation, quoi. Travailler avec un corpus de réflexion et puis faire des chansons dessus, quoi.
Autre thématique de prédilection chez vous, Flavien Berger, la mer, les abysses, mais aussi la fête foraine. Installer des manèges au fond des océans, c'est audacieux. Pourquoi est-ce que vous faites cohabiter ces autres thématiques-là entre elles dans vos chansons ?
C'est ça, en fait. Je parlais de sujets thématiques. Je crois que j'aime bien quand je fais moirer plusieurs thématiques ensemble, qui en crée une troisième. Donc là, en effet, dans Léviathan, c'est un peu l'exemple. C'est-à-dire que j'avais un attrait pour l'art forain, parce que je m'y retrouvais aussi, moi, en tant que musicien sur scène, musicien électro, qui joue aussi de l'intensité, qui joue du contraste, qui joue de la surprise. Et puis, l'inconnu de la musique, donc les abysses de notre planète, qu'on connaît presque moins bien que l'univers. Et c'est faire mélanger les deux, tout à coup, ça crée un troisième paysage comme ça, qui serait quelque chose de l'ordre des abysses, une cité, voilà, je me balade là-dedans comme dans une cité engloutie, quoi.
Donc le très familier et le très inconnu. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le groupe La Brume ?
C'est ça aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est-à-dire à la jouer en live, sortir des disques, à devenir un petit peu musicien pro, quoi, je connaissais pas vraiment de musicien, musicienne. J'en avais pas dans mon entourage, je venais plutôt des arts plastiques ou du design, tout ça. Et donc, bah, au fur et à mesure de mes tournées, de mes projets, je me suis mis à rencontrer d'autres musiciens, musiciennes. Et voilà, et pour les 10 ans de Léviathan, m'est apparue l'idée de reprendre ce disque. Et donc, j'ai un peu pensé à un groupe comme ça de rêve, et donc j'ai contacté chacun, chacune, et tout le monde a répondu présent. Et donc, ce sont des gens que j'ai rencontrés, voilà, en tournée, dans des studios, par amis d'amis musiciens, musiciennes, voilà quoi. C'est des rencontres.
Et j'aurais aimé parler aussi du choix des instruments. Dans Plouf, on entend beaucoup la basse, on entend la flûte aussi, par exemple. Oui. Ce sont des instruments qui vous touchent ?
Ah bah oui, puisque en fait oui, la formation finalement de La Brume, elle est assez classique, hein, c'est basse, guitare, batterie, clavier, et puis flûte pour quand même la virgule. Bah, c'est en effet, je pense que j'avais fait des podcasts que j'ai envoyés au groupe avant qu'on fasse le disque, et je pense que dans mes refs, en fait, il y avait pas mal de musique brésilienne, pas mal de jazz, qui quand même il y avait des soufflants, donc c'est, j'étais content de pouvoir avoir cet instrument-là avec nous. Thibaut Merle à la flûte.
On peut vous voir sur scène, Flavien Berger, dans les temps à venir ?
Alors non, pas que je sache, mais on défendra un jour ce disque, bien sûr. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai fait une grosse tournée l'année dernière, et donc c'est vrai que là, je préfère me concentrer sur d'autres projets, puisque en plus, voilà, disons que c'était ça la célébration des 10 ans de ce disque. Mais on va pas partir en tournée. Et puis partir en tournée avec 6 musiciens, musiciennes, c'est toute une orga aussi.
Mais on peut écouter en attendant votre podcast Avant Plouf, dont vous avez parlé à l'instant et qui est très très passionnant sur toutes les plateformes d'écoute, et vous y détaillez tout votre travail, vos influences. C'est pour guider les musiciens, vous l'avez dit, mais c'est passionnant aussi pour nous, auditeurs et auditrices. Merci beaucoup Flavien Berger d'avoir été avec nous dans ces midis. On se quitte sur le morceau Turquoise, réinterprétation de la fête noire, donc sur l'album Plouf.
Merci, au revoir.
Oui, l'endorphine s'est envolée, traçant un arc dans la nuit, de la couleur des opiacés. Sous la voûte, je m'évanouis.
Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejode et Nina Gandara. À la réalisation aujourd'hui, Olivier Bétard et Alban Pelletier, et à la technique, Ruben Carmazine.